Donc, le poète apparaît régulièrement en littérature, bien sûr, entre autres dans les recueils de poésie, mais aussi dans des romans et des pièces de théâtre. La représentation de ce genre d'écrivain n'est cependant pas l'apanage de la littérature. Il serait même assez difficile de prétendre qu'elles sont d'abord littéraires tant elles traversent l'ensemble du discours social et de l'imaginaire social qui n'est pas uniquement composé de discours, comme l'ont montré plusieurs personnes au cours de ce colloque. On trouve donc des personnages de poètes dans un certain nombre de productions culturelles non littéraires contemporaines, comme les films et les téléséries. Que nous apprennent ces images du poète au petit et au grand écran, d'une part sur le rôle que revêt le producteur de poésie dans l'imaginaire social en général, et d'autre part sur le rôle des représentations de composantes du littéraire par la communauté artistique extra-littéraire, donc entre autres la communauté cinématographique. On peut malgré tout remarquer dans les productions audiovisuelles sur lesquelles je me suis attardé des motifs récurrents qui forment ce que le sociopsychologue Jean-Claude Abric nomme un noyau central, c'est-à-dire que même si ces représentations-là sont assez différentes, elles partagent un air de famille. Les trois productions dont je vais parler aujourd'hui se distinguent l'une de l'autre en raison à la fois de la langue employée, du format, de l'ancrage culturel et du budget. Tout d'abord, la web-série britanno-colombienne de langue anglaise « White Collar Poet » de Michael Grand, qui date de 2011. Ensuite, le long-métrage français « Des milliards de toi, mon poussin » de Mathilde Laconge, qui date pour sa part de 2015. Et enfin, le récent film chilien « Poesía sin fin » du toujours surprenant Alejandro Jodorowsky, pour ceux qui connaissent, et ça date de l'an dernier, donc 2016. Je vais m'attarder aujourd'hui sur la signification sociale que revêt la poésie grâce à une analyse des représentations du poète dans ses productions télévisuelles et cinématographiques, en tentant principalement de souligner leurs points communs et je tâterai en conclusion quelques hypothèses qui pourraient éventuellement expliquer ces convergences. Les réponses vont inévitablement être partielles parce qu'il faudrait, bon, pour avoir un portrait global du poète, analyser disons, un très, très grand nombre de productions contemporaines, ce que je n'ai pas encore fait, d'autant plus pour être honnête. En fait, c'est la première fois que je m'attarde vraiment sur des films et des téléséries, mais ça ouvre tout un chantier qui est très intéressant et que je n'avais pas envisagé a priori. La série White Collar Poet est une web-série britanno-colombienne de langue anglaise réalisée en 2011 par Michael Grand. Elle est composée d'un prologue et de 8 courts épisodes. Et la série est filmée dans le secteur financier du centre-ville de Vancouver. Le protagoniste de la série s'appelle Richard Scribe, vous voyez partiellement à gauche à l'écran, et il est vice-président de l'une des plus importantes compagnies d'assurance du pays, d'assurance fictive du pays, qu'il a appelé Just in Case, donc au cas où. Le prologue décrit l'histoire de Richard comme celle d'un homme qui, au beau milieu de la crise financière, probablement celle de 2008, étant donné que la série date de 2011, donc un homme qui, au beau milieu de la crise financière, straddles two worlds. Le terme straddle signifie enjamber. Le protagoniste enjambe donc deux mondes, ceux, bien sûr, d'avant et d'après la crise financière, mais aussi, surtout, c'est ça ce que je vais m'attarder aujourd'hui, les deux univers auxquels appartient Richard, soit celui de la finance et celui de la poésie. La dichotomie entre l'univers de l'art et celui du capital est soulignée dès le titre de la série. Les « white collar », les « cols blancs » sont des cadres, alors que les poètes, comme le souligne la série, appartiennent à l'autre groupe social. En fait, la série est un peu tranchée de ce point de vue-là. Il y a seulement deux groupes sociaux, soit les personnages appartiennent au monde de la finance, soit ce sont des artistes et des poètes, et il y a Richard qui, lui, appartient aux deux groupes. Donc, le titre de la web-série apparaît un petit peu comme un oxymore, à la façon aussi du nom du personnage qui s'appelle Richard Scribe. Le verbe « to scribe » signifie « écrire », c'est donc une référence à l'art verbal, plus précisément à la poésie. Quant au prénom du protagoniste, c'est Richard, et ses amis le surnomment « Rich », parce qu'il est justement riche, étant donné qu'il est très beaucoup de succès dans le secteur de la finance. Ce prénom et ce nom rendent compte de la position du personnage entre le monde des cols blancs, celui de l'élite financière, et le monde des artistes, entre le monde des chiffres et celui des mots. La posture du personnage apparaît ainsi comme particulièrement inconfortable. Il appartiendrait simultanément à deux classes sociales, l'une de par sa situation financière, matérielle, et l'autre de par sa nouvelle posture idéologique. Je dis nouvelle parce que la série commence en fait au moment où Richard a une épiphanie. Il découvre la poésie qu'il ne connaissait absolument pas avant. Il se met à écrire et ça va changer complètement sa façon d'appréhender l'existence. La série porte en fait sur la tentative de Richard de concilier ces deux facettes de lui-même, qui sont aussi les deux facettes de la société. À l'origine, l'objectif de Richard est de, je cite, « make poetry with business », faire de la poésie avec les affaires. Et je vais vous montrer ce petit extrait.
I don't rock a gold credit card either. I rock a platinum. When people ask me what my limit is, I just laugh at them. My credit, it's like my poetry. There's no limit. My poems are deeper than a bottomless pit. And yeah, I got RESPECT for my RRSP. And damn straight, I've got a comprehensive life insurance policy. But you're probably thinking to yourself, what kind of suit and tie is this? Well, I'm a white collar poet, and I'm open for business. White collar poet.
Donc, voilà un petit extrait de la série. La série joue beaucoup là-dessus, en fait, sur... je crois pas que les deux jeunes femmes étaient des actrices, en fait. Elles ont l'air assez surprises. Et donc, la série joue aussi là-dessus. Parfois, c'est des gens comme ça qui s'abordent dans la rue en déclamant des bouts de poèmes. Et d'autres fois, c'est des acteurs. Donc, des fois, on se demande, est-ce que c'est un acteur? Est-ce que c'est vraiment une personne comme ça dans la rue? Donc, il y a ça aussi qui est très intéressant, mais dont je vais pas parler davantage pour l'instant. Donc, Richard fait rimer poète et business, ce qu'il proclame être un white-collar poète qui est open for business. Il s'exclame également, je cite, « My credit is like my poetry, there's no limit ». Ce faisant, il dresse un parallèle entre les possibilités infinies offertes par le langage poétique, qui ne connaîtrait aucune limite, et celle qu'offre sa marge de crédit, qui est elle aussi, prétend-il, infinie. En fait, Richard mêle si bien poésie et business qu'il profite de ses récits de poésie pour faire de la publicité pour sa compagnie d'assurance, c'est dans un autre épisode, en faisant rimer poetry et comprehensive life insurance policy. Richard parvient donc à concilier poésie et finance, mais uniquement dans son discours, en fait. Dans la réalité, la conciliation se révèle plus difficile et même impossible. Au deuxième épisode, Richard voit un homme qui parle au téléphone et traverse la rue, et il l'arrête pour savoir s'il veut entendre un poème. L'homme, qui est clairement un acteur, est sidéré et lui demande si un poème va lui rendre les 30 000 $ qu'il vient de perdre dans le Nasdaq, une cote à la bourse. Si le monde de la finance peut inspirer le poète, la poésie, elle, n'a aucune utilité pour le monde de la finance. On s'aperçoit progressivement, alors que les épisodes s'enchaînent, que Richard et ses anciens amis, des amis qui travaillent tous dans le secteur financier, s'éloignent de plus en plus. En fait, Richard se met même à négliger son travail. Plutôt que de travailler, bien, il va aller dans la rue et réciter des poèmes. On ne voit pas vraiment travailler en fait, dans la série. Il va même essayer de lire un poème dans l'une de ses réunions de la compagnie d'assurance, mais son collègue et ami, plutôt ancien ami, va rapidement le ramener à l'ordre, disant bien évidemment que la poésie, ça n'a pas sa place dans une réunion au travail. Le travail de Richard en vient justement à paraître comme incompatible avec la poésie et la série se termine alors que le protagoniste part avec un groupe de danseuses, stripteaseuses, slameuses, performeuses, en tout cas des artistes multidisciplinaires, un peu bohèmes, et il laisse entendre qu'il quitte son travail et ses anciens amis pour vivre comme un poète. Je vais revenir un peu sur la série en conclusion et au cours des quand je vais parler aussi des autres... Les autres productions, je passe à Des milliards de toi, mon poussin, de Mathilde Laconche. C'est un film français réalisé en 2005. Le film est présenté sur le site de l'auteur comme une comédie poétique. La poésie et le poétique dans ce film, on va le voir, apparaissent comme des formes de rébellion contre les institutions, en fait. Et cette conception ne s'arrête pas qu'aux reproductions, par exemple, qu'aux représentations qui sont présentes dans le film. C'est aussi dans le paratexte, je ne sais pas comment parler pour un film et dans le discours autour du film. Ce film est disponible, vous voyez, sur YouTube et c'est l'auteur elle-même qui l'a mis disponible comme ça. Et il propose, je cite, « d'explorer la création en tant qu'acte révélateur sans les ornements du dogme des institutions. » Donc c'est très très clair même dans le discours de l'auteur. La protagoniste de « Des milliards de toi, mon poussin » est présentée quant à elle comme une poétesse éco-warrior, donc guerrière écologique, si on voulait traduire, ce qui lie immédiatement le rôle et la représentation du poète aux enjeux écologiques et à la lutte d'une idéologie pro-environnement portée principalement par des adolescents dans le film contre des institutions hostiles dirigées par des adultes. Donc, on voit que c'est représenté de manière assez dichotomique, hein? Les adultes rebelles contre... les adolescents rebelles contre les adultes qui supportent les institutions. C'est plus spécifiquement par la défense des animaux que se manifeste l'intersection du poétique et du politique dont je viens de parler, l'une des premières scènes du long métrage montre la protagoniste et son ami en pleine discussion au sujet de la poésie, et c'est à ce moment qu'il voit un escargot. Donc, il prend l'escargot et décide de l'adopter et de le nommer Révolution, montrant bien par là que Révolution va de pair dans leur esprit avec la poésie et la prise en compte du sort des non-humains. L'escargot va être un symbole, je dirais même un peu trop présent dans le film. Il va y avoir de longues scènes où on montre des escargots qui marchent lentement sur le sol. Et donc, évidemment, je me suis demandé pourquoi les escargots, et l'explication à laquelle j'en suis venu, c'est que les escargots avancent lentement, ils font des petits pas, et on pourrait dire que sur le plan symbolique, les actions des protagonistes et son ami sont aussi des petits pas vers une révolution en cours, à venir. C'est une révolution à partir des petits gestes individuels qui font une différence. Et aussi, quand on nous montre ces images d'escargots qui avancent lentement, il y a en même temps, par contraste, une sorte de je n'avais pas prévu de vous montrer cet extrait-là, mais une musique un peu révolutionnaire ou chevaleresque. Ces petits gestes dans le film constituent des formes de contestation contre le sort réservé aux animaux, et je vous montre un extrait qui est en fait le tout début du film. Donc, l'une des grandes caractéristiques de la représentation du poète dans cet extrait-là, c'est précisément qu'en fait, le poète ne fait pas ce qu'il devrait faire, donc réciter de la poésie. C'est quelque chose qui est présent, plutôt absent, de manière étonnante dans tout le film, que le poète ne récite pas vraiment de poésie, sauf une fois où le personnage va réciter quelques vers, mais ça ne dure même pas une minute, et on passe rapidement à autre chose. La poète, donc, est plus éco-warrior que poète. C'est qu'éco-warrior n'est pas le qualifiant contingent de poète, si on veut, c'est pas accessoire, c'est vraiment, dans ce film, la définition même du poète que d'être révolutionnaire, que d'être éco-warrior. C'est un peu à ça que ça se résume. On voit aussi, étant donné la manière dont les personnages sont habillés dans cet extrait, que leurs actions politiques sont indissociables d'une performance artistique, et on voit ça aussi ailleurs, je vais vous montrer rapidement. Donc, c'est à un moment où ils se mettent à mettre, vous voyez un peu le principe, ils mettent ce qu'il y a en arrière, c'est des affiches pour protester contre l'élevage de porcs, donc ces images de porcs égorgés, vous le voyez très bien. Et il y a quelques extraits comme ça dans le film où ils vont faire des sortes de performances artistiques en mettant ces affiches-là. Donc, pour résumer pour ce film, ce que je vous ai montré, c'est des gestes politiques, à la limite peut-être des performances artistiques, mais c'est pas ce qu'on aurait tendance à appeler de la poésie. Donc, comme je vous l'ai dit, en réalité, ce qu'on appelle de la poésie est assez marginal dans le film. La protagoniste va réciter qu'un seul petit poème, si ça ne dure pas très longtemps. Donc, la scène n'est vraiment pas mise là-dessus. Il faut en conclure que c'est moins le langage ici qui est poétique dans ce film que les actions. Et on voit une conception semblable dans Poesia sin fin d'Alejandro Jodorowsky. Le film de 2016 est la suite de La danza de la realidad, sorti en 2013. Et les deux productions ont une dimension autobiographique. Bon, le film n'est pas encore disponible de manière légale au Canada. Je l'ai vraiment cherché, il est seulement disponible en Europe. Donc, je vais vous montrer un extrait à partir d'ici. Si je suis capable.
Alejandro, ¿estás de acuerdo conmigo? El lenguaje nos ha enseñado transporte ideas locas.
Así es, querido Enrique. En lugar de pensar correcto, pensamos torcido.
Tengo que aclarar que también caminamos torcido.
A mí me parece que caminamos en línea recta.
Sí, pero llegando este camión que nos obliga a torcer. ¿Qué hacemos?
Los poetas no estamos obligados a nada. Continuemos en línea recta.
Estamos atravesando la ciudad en línea recta. ¿Puede usted permitirnos atravesar su casa?
¿Por qué hacen eso?
Para desarrollar nuestra conciencia, señor.
Bueno, eso. Pasen, pasen.
Donc là, bon, ils vont, en fait, monter sur le lit même, parce qu'ils ne peuvent pas contourner le lit. Et heureusement pour eux, il y a ensuite une fenêtre, c'est pas un mur. Donc, ils vont pouvoir sortir. Je sais pas ce que ça a fait, ça avait été un mur. Donc, on a cette idée que le poète est d'abord quelqu'un qui agit d'une certaine manière, et en fait, agit de manière différente que les personnes ordinaires. Ils vont vraiment à contre-courant quand ils montent sur le camion, plutôt que de simplement le contourner au grand dam du propriétaire, qui, comme vous l'avez vu, lui, se met à leur lancer des... je sais pas c'est quoi, je crois que c'est des fruits. Donc, il y a plusieurs scènes de ce type-là dans le film. Un excellent film, si vous voulez le voir quand il sera disponible, sinon il est disponible sur Internet. Le poète dans Poésie sine fine fait aussi de l'art, mais il est rare, mais c'est rarement un art verbal. Ainsi, l'ami d'Alejandro, Enrique, celui que vous avez à droite sur l'écran, dit que les poèmes atteignent leur perfection quand ils brûlent, donc quand la matière verbale disparaît au profit d'une performance artistique éphémère. Je vous parlais un instant des personnages de Demiurge, toi, mon poussin, qui met des affiches contre l'élevage de porcs et transforme ça par performance artistique. Ben, les personnages du film d'Alejandro Jodorowsky font un peu la même chose. Alejandro, il se ressemble en fait à des performances dadaïstes. Je vais essayer de vous retrouver l'extrait. Ils vont en fait, c'est ici. Bon, vous avez, ils vont réciter deux petits vers à peine, donc c'est la poésie pas très importante là-dedans, et ils vont se mettre ensuite à lancer de la viande et des œufs sur leur auditoire. Un moment plus tard, et on va le voir dans quelques instants, ils se rendent à une statue en hommage à Pablo Neruda. Ils la recouvrent de bandages bleus et vont peindre le nom de Neruda pour qu'il devienne illisible. Donc, c'est ici. Donc, ils ont recouvert la statue de bandages, ils ont recouvert le nom pour qu'il soit illisible. Et il s'agit, disent les poètes, d'une lutte pour, je cite, « transformer cette ville réelle en ville imaginaire ». Autrement dit, transformer l'institué en institution, l'idéologie en utopie. Et les poètes s'exclament en révélant ainsi le statut symbolique et politique de la statue recouverte de bandages, je cite, « La statue de l'homme invisible a été dévoilée, l'hommage aux individus sans nom de cette cité sans rêve, personne n'a jamais rien dit, nous avons toujours été muets, personne n'a jamais écouté. » Il signale ainsi vouloir donner la parole aux marginaux, aux personnes qui habituellement n'ont pas la parole. Donc là, ça vous permet de vous montrer, de voir un peu aussi l'esthétique de Jodorowsky pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, comme le temps avance rapidement, je vais tout de suite arriver à ma conclusion. White Collar Poet met en scène le fossé entre la communauté artistique et l'hégémonie financière instituée en montrant qu'un même individu ne peut pas, selon cette websérie, concilier ces deux mondes et qu'ultimement, il doit choisir entre l'art et le capital. Quant à elle, les productions de Laconche et Jodorowsky présentent ce qui découle, si on veut, de cette scission, c'est-à-dire une sorte de lutte de classe entre la communauté artistique et les institutions en place. Mais au fond, pourquoi est-ce que ces trois productions reprennent des images du poète plutôt que celles du réalisateur, par exemple? Le poète n'est pas d'abord un individu qui utilise le langage dans les films de Laconche et Jodorowsky, c'est justement cette délittérarisation, si on veut, du poète qui permet son décloisonnement et le rend signifiant pour les autres arts. White Collar Poet offre une bien plus grande place à la poésie comme pratique verbale. Par contre, le poète apparaît, même un peu malgré lui, comme le membre d'une communauté artistique. Et le fait qu'il est membre de cette communauté est symbolisé, entre autres, par le fait qu'il s'envoie à la fin de la série avec un groupe de danseuses, slameuses, performeuses. Donc, il est membre de cette communauté artistique qui s'oppose à l'hégémonie financière. On pourrait peut-être en conclure que la figure du poète serait aujourd'hui l'étendard d'une certaine communauté artistique transnationale, puisque tous les films que je vous ai montrés appartiennent à des sphères culturelles différentes, une communauté alignée plutôt à gauche, en ce sens où elle s'oppose au secteur de la finance, tout en promouvant des valeurs écologistes, en reprenant la défense des marginalisés, peut-être parce que cette communauté est elle-même marginalisée, en fait. Surtout si on pense à White Collar Poet et des milliards de Thomas Poussin, ce sont des productions assez underground, Jodorowsky aussi, dans une certaine mesure, qui ne transite pas vraiment par les circuits officiels. Cette conclusion est arrêtée davantage une hypothèse qu'une conclusion, et elle resterait à être démontrée par une analyse sociologique, si on veut, parce que j'ai insisté aujourd'hui sur le quoi, le contenu de la représentation, et en fin de compte, ce quoi gagnerait fortement à être envisagé en fonction d'un qui, et surtout d'un pourquoi. Autrement dit, qui est-ce qui produit ces représentations et pour quelles raisons? En raison de quelle détermination sociale, mais aussi en fonction de quels objectifs. Merci.